Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici le reportage de Pascal Marcaggi.
Nous ne vous apprenons rien en vous répétant après d'autres que notre planète Terre est pour belle part faite d'eau. État des lieux du propriétaire que nous ne sommes pas, les océans ce sont 360 des 560 millions de kilomètres carrés de la superficie de la planète. Et cela vous le savez aussi, la croissance sera bleue. Énergie renouvelable ou hélas pas, protéines et tant qu'à faire. L'oxygène que nous respirons vient de là. Or, le décalage est grand entre par exemple les appétits qui se servent déjà et le fait que la haute mer est une zone de non-droit. L'autre décalage, c'est le petit retard à l'allumage. On a songé à créer des parcs naturels terrestres dès le 19e siècle. C'était à l'époque Abraham Lincoln dans la vallée du Yosemite pour protéger les séquoias géants, avant même le parc de Yellowstone. L'idée même d'en faire autant en mer est bien plus récente. Jean-Paul Michel, directeur du programme Patrimoine océanique de l'humanité de l'ONG Pew.
Jusqu'à très peu de temps, jusqu'à moins de 8 ans, les politiques des gouvernements étaient de faire des petites réserves marines côtières le long des côtes et de petite taille. La moyenne, je crois, c'était de 4 km². Voilà. Alors le nouveau concept pour lequel je travaille avec d'autres ONG, c'est de voir beaucoup plus grand pour arriver aux objectifs de 10% des océans protégés. Si on avait continué dans la même dynamique des petites AMP côtières, il aurait fallu un siècle pour arriver à 10%.
10% de l'océan placé en aire marine protégée, cela semble une goutte d'eau. Cet objectif fixé pour 2012 n'a pas été atteint. La date butoir en a été reculée à 2020, d'où l'idée de changer d'échelle. Et là encore, l'idée est anglophone. Pierre Lénard, doctorant au Centre de Recherche Insulaire et Observatoire Biologique de l'Environnement, le CRIOB.
Les pionniers en la matière, c'est les Australiens, avec le parc marin de la Grande Barrière de Corail. C'est finalement encore les leaders en termes de gestion de grandes surfaces, parce que c'est eux qui ont finalement la plus grande expérience. Mais depuis une dizaine d'années, les Américains ont suivi avec le monument hawaïen, ainsi que les Britanniques avec l'archipel des Chagos. Et on a aussi des petites nations du Pacifique qui ont créé des grandes aires marines protégées, à l'image de la République des Kiribati, qui a classé sur l'archipel des Phénix en 2008.
Les îles Kiribati, ce sont les trois petits archipels des îles Gilbert, des îles Phénix et des îles de Ligne. Si cela ne vous dit rien, regardez donc entre Hawaï au sud et Tuvalu, les premiers futurs réfugiés climatiques au nord. Eh bien, c'est là. Les Gilbertins, ainsi appelle-t-on les habitants des Kiribati, ont donc choisi de classer les eaux de l'île Phénix en aire marine protégée. Et la France, petite exception au passage du fameux retard à l'allumage terre-mère, 1963, la France crée en même temps le parc naturel de la Vanoise et le parc naturel de Porquerolles, première aire marine protégée française où la faune se porte aujourd'hui fort bien. La France, justement, c'est le deuxième pays maritime au monde après les États-Unis, grâce notamment à la Polynésie française. Jean-Paul Michel.
Cette zone est la plus grosse zone économique exclusive dans le monde, puisqu'elle fait 5 millions de kilomètres carrés. Elle est aussi étendue que l'Europe occidentale, et avec une population qui correspond à la population de Bordeaux, c'est-à-dire 250 000 habitants. Donc vous voyez une zone partant de la Finlande, du Portugal et de la Grèce, avec la ville de Bordeaux au milieu disséminée.
La différence entre les aires marines protégées classiques, sanctuaires marins où rien n'est autorisé, ou bien zones où les activités humaines sont réglementées, est que celles-ci sont à l'initiative des États, dans leur zone économique exclusive et souvent bien plus petite. Pierre Lénard.
Avant tout, c'est la taille. On a eu l'habitude de gérer et de créer des aires marines protégées qui faisaient quelques hectares, voire quelques kilomètres carrés. Aujourd'hui, on travaille sur des centaines de milliers de kilomètres carrés, voire des millions de kilomètres carrés. L'échelle étant différente, les méthodes pour gérer ces grands espaces le sont aussi.
Voir grand, c'est viser l'objectif de 10% de l'océan en aire marine protégée d'ici à 2020. C'est aussi prendre en compte que tout le monde n'est pas forcément d'accord pour protéger la biodiversité. Jean-Paul Michel.
Nous sommes, réalistes et pragmatiques. Nous avons ciblé plutôt les zones qui ne sont pas encore trop dévastées et surtout trop humainement peuplées et denses. Voilà, donc ça veut dire pour nous surtout le Pacifique.
Dès lors qu'une aire marine protégée concernera plusieurs États, c'est bien sûr le droit international qui devra mettre tout le monde d'accord. Pierre Lénard.
Quand l'aire marine protégée est dans la zone économique exclusive, il s'agit que d'un État lui-même. En revanche, en haute mer, donc en territoire international, il faut des accords internationaux. Je peux vous citer l'exemple de la convention OSPAR qui, en 2010, a abouti à la création d'un réseau d'aires marines protégées au large.
OSPAR pour Oslo-Paris a été signé en 1980. 1998 pour l'Atlantique Nord-Est pour travailler sur les séquelles maritimes de guerre. Les munitions immergées et aussi sur un réseau cohérent d'aires marines protégées, vœu très cher du Congrès des aires marines protégées, dont le troisième du genre s'est tenu à Marseille en octobre dernier. Un peu plus loin, donc Hawaï, les Bermudes, les îles Sandwich, c'est juste au nord de l'Antarctique, les grandes aires marines protégées ne sont donc pas accessibles d'un simple ticket de métro. Au large du Chili, au très grand large du Chili, le Chili, le paradis de nos farines animales avec les anchois, ce sont les eaux de l'île de Pâques qui seront aires marines protégées en grand.
Notre cible, c'est l'île de Pâques. C'est toute la zone exclusive autour de l'île de Pâques. Ça représente à peu près 700 000 km². C'est loin du Chili. Donc eux, ils ne sont pas impactés par ce dont vous parlez. Et concrètement, l'ONG que je représente a mis en place une équipe sur l'île de Pâques et au Chili. Les uns convainquent les populations locales et les autres, les gouvernements. C'est un peu ce qu'on fait ici. Moi, je suis à Paris et j'ai deux équipes. Une équipe en Polynésie et une équipe en Nouvelle-Calédonie. Et on se répartit le rôle et la conduite du projet.
Les aires marines protégées à distance respectable de certains prés carrés. Pierre Lénard.
Pour toute initiative de conservation, il y a forcément des oppositions. Dans la démarche des grandes aires marines protégées, on constatera que la mise en place de ces grands périmètres ont été effectués dans des endroits très isolés, avec finalement assez peu de population locale, ni même d'intérêts économiques très importants. On retrouve un petit peu de pêche thonnière dans ces endroits-là, mais les intérêts sont quand même relativement limités. C'est un certain opportunisme politique des États d'installer des aires marines dans ces milieux reculés.
Voir gros, voir grand en français, telle est la politique qui peut paraître lointaine des aires marines protégées, version XL. Le but immédiat, la protection de 10% des océans.
Avec la première création de la sorte, ça a été à Hawaï, le nord-est de Hawaï en 2006. Vous voyez, c'est tout récent. Et depuis, en construisant ces grandes réserves, nous avons triplé le pourcentage actuel qui est protégé. En 2006, il était de 1%. Là, maintenant, il est à 3%. Ça indique quelque part que notre politique de gros, de voir gros, les anglo-saxons disent « going big », c'est la politique qu'il faut si on veut vraiment protéger 10% des océans de la planète.
Le but en filigrane, nous savons donc que la haute mer est une zone de non-droit. Les grandes aires marines protégées ont un air à s'y méprendre de prémices de zone de droit.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.